les tout, est-ce qu'on compte les anthologies comme des mini-séries ou pas?
Non.
Non, okay, très bien, je demande, d'accord.
De trolls diaboliques sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. La grande époque de la caverne de la Rose d'Or, des sagas de l'été est derrière nous et pourtant les mini-séries sont toujours là. On va parler des anciennes, des indispensables, des actuelles, de Racine à Years and Years en passant par Band of Brothers ou Dinotopia. Quelles mini-séries sont à voir? Avec moi pour répondre, Thomas.
Salut.
Stéphane.
Bon, hello. C'est-à-dire bonsoir, mais non. Hello.
Maxime.
Salut.
Alexis.
Salut.
Et Mini à qui?
Comment ça, Mini? Wesh, là.
Wesh. Bon, alors, les oiseaux se cachent pour mourir, nord et sud, tout ça, on n'a pas vu parce qu'on était trop petits, ça, nos parents ont vu, ça, c'est clair. Par contre, les mini-séries de Stephen King, ou alors Le Dixième Royaume, Band of Brothers, tout ça, on a à peu près vu. Bah, déjà, on va faire un petit tour des très anciennes mini-séries, donc je parlais des oiseaux se cachent pour mourir, ou nord et sud, ça, personne n'a vu.
Non.
Non.
Mais nord et sud, ça n'a pas été repris ensuite, enfin, pour moi, c'est pas une mini-série du tout, en fait, si?
Bah, ils ont fait plein d'adaptations, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des adaptations de romans.
Ah,
donc, ça, c'est clair. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais il y en a une avec Patrick Swayze, je crois.
Oui, c'est ça. Moi, je pense à celle-ci. Il y en a d'autres, c'est ça?
Ok. Bah, je crois
qu'il y a eu tellement de diffusions aussi. T'as l'impression qu'il y a eu 12 saisons, alors que non, en fait, ils l'ont rediffusé en coréen.
Mais alors, par contre, les téléfilms, parce que c'était souvent des épisodes d'une heure et demie, ça. Enfin, plusieurs parties.
C'était bien. C'était la belle époque.
Voilà, parce que maintenant, c'est plutôt des séries événements, donc on va essayer de faire quand même la distinction. Alors, les mini-séries de Stephen King, comme Le Fléau, les Tommyknockers ou ça, Stéphane.
Les Langoliers aussi.
Oh, ouais. C'était chiant. Ça.
Tu l'as dit, non.
Tu vas faire des cauchemars?
Non, stop. Non, ne le redis pas. Ne redis pas ce mot, s'il te plaît.
Bon, mais
non,
d'accord.
Non, vraiment, j'en. Ah, putain, ça y est. Ah, attends, déjà.
On a perdu.
Non, mais c'était trop bien.
Les Langoliers, c'était chiant.
Ah non, c'était non, enfin, chiant. Toutes les mini-séries adaptées de Stephen King qui valaient le coup. Même Le Retour aussi.
Il est revenu, oui, ça c'était. Oui, ouais. Ça a un peu vieilli. Mais... Alors, les Tommyknockers, c'était pas trop mal, mais par contre, Le Fléau, je crois que c'était très chiant.
Il était très chiant. Et j'ai peur pour l'adaptation là, qu'ils sont en train de faire pour CBS All Access. Franchement, j'ai peur, quoi. Mais bon, on verra.
Et il y avait aussi donc La Tempête du siècle, où ça aussi c'était très chiant.
Ah oui,
mais,
clairement.
Bon, évidemment, les romans de Stephen King se prêtaient un peu à ce genre de mini-série, de mini-téléfilm. Ouais, c'est vrai qu'il est revenu, c'était mon préféré. Les Tommyknockers aussi, oui. C'était pas trop mal, puisque tu avais des extraterrestres.
Ben, moi, il y a l'autre que je dois pas prononcer le nom, il semblerait, mais. Parce que j'en ai fait des cauchemars, quoi, mais voilà quoi.
Arrêtez, c'est horrible. Littéralement, je pense que j'en fais encore des cauchemars. C'est un cauchemar récurrent que je fais. Hein,
moi aussi, j'étais traumatisé dans ma jeunesse à cause de celui-ci. Je sais pas pourquoi.
Bon, alors passons, c'est pas grave.
Ouais.
Alors, avec le succès de.
J'ai larmes aux yeux, là, pour vous dire, et je vous aime. Franchement, j'ai des frissons et tout, je suis mal, en fait, vraiment.
Confine-toi.
Oui.
À la grande époque de Hercule et Xena, y a les grosses chaînes qui ont essayé de faire leur téléfilm d'aventure en plusieurs parties. Donc, il y a eu Merlin, il y a eu Gulliver, il y a eu toutes ces conneries-là. Et il y a eu aussi le. Avant ça, il y a eu La Caverne de la Rose d'Or. Je crois qu'il y en a eu pas mal d'épisodes, je crois. Il y a eu au moins une dizaine, je crois, non?
Non, il y en a, en fait, il y en a que 5 de 3 heures. 5 de 3 heures.
Bah, donc 5 de 3 heures, donc 10 de.
10 de 1h30.
Ouais, c'est ça.
Mais oui. J'ai découvert. Attends, pardon.
C'est italien,
découvert
ça.
Oui, j'ai découvert ça en achetant les DVD parce que je les ai achetés parce que j'adorais ça quand j'étais petit. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas 10 épisodes, c'était 5, 2 fois 1h30. Quoi. Donc voilà.
C'est vrai qu'ils nous vendaient des trucs de 3 heures alors que sans les pubs et tout en version française. Enfin, pour la France, c'était 2h30, quoi.
Ouais, c'était du 88 minutes, ouais. Donc ouais, voilà quoi.
Et Fantagero. Donc, ouais, La Caverne de la Rose d'Or, donc c'est assez kitsch.
La Désidériade.
C'est plus trop diffusé ça, parce qu'évidemment ça a vieilli. Mais
à un moment donné, M6, il le diffusait quasiment à tous les Noëls.
Ouais, c'était. Ouais. C'est de 91 à 96, hein, il y en a eu pas mal.
Ouais. Hein.
Dans le même style, un peu le Dixième Royaume. Stéphane, toi, t'as
des
souvenirs?
Oui.
Ah oui.
Même style, c'est vite dit, mais
c'est un peu fantastique, évidemment.
Ouais, c'était la saga de fantasy, quoi. Voilà, non, c'est bien. Bah, c'était les adaptations et ça te permettait d'avoir un petit peu de merveilleux à Noël, quoi. Parce que généralement, c'était vraiment diffusé à Noël, quoi. Pourquoi.
C'est un petit pic de Noël. Hein. T'avais les téléfilms de Noël et t'as le Deuxième Royaume qui passe à ce moment-là, quoi.
Des trucs un peu cheap, quand même.
Et qui est encore diffusé sur les chaînes perdues de Canal Satellite. Je l'ai vu cette.
Ben Canal Noël, Satellite, ça n'existe plus, Canal Sat.
Non, Canal Sat, bon, pardon.
Si, ça existe encore. TPS, TPS.
Mais si, en vrai, c'est comme les histoires sans fin. Bon, là, ok, on parle de film, mais c'est tout, ça passe toujours ensemble, quoi. C'est limite un package. Ouais, le package fantasy des années 2000.
Maintenant, ça passe plus trop dans les chaînes un peu plus vues.
Et pour le coup, je fais une petite aparté, mais la The Letter for the King, l'écuyer du roi, là, qui vient de sortir sur Netflix, ça m'a rappelé énormément ça, que ce soit les aventures de Fantagiro avec la caverne de la Rose d'Or, ou même Dixième Royaume et toutes ces conneries. Ça m'a rappelé ça, sans être aussi bien, mais voilà.
Mais Letter for the King, c'est quand même très teen, non? Parce que les autres, c'était un petit peu, enfin, c'était pas si teen que ça, en fait. Enfin, même voir. Pas du tout, dans le sens où il n'y avait pas de héros jeunes, quoi.
Non, ah ben oui, ben là, il y a des ados, donc...
Oui, c'est ça, là, c'est très ados.
Ouais.
D'accord. Et aussi, les sagas de l'été de TF1, les trucs comme ça, est-ce qu'on peut considérer que c'était des mini-séries à la française? Enfin, c'était les... Ça Dolmen. Passait pendant l'été, quoi. Dolmen, Mystère...
Tramontane.
Cœur brûlé, les choses comme ça.
Méditerranée.
Méditerranée.
Ça, personne ne regardait, ça. Enfin,
bien sûr. Si, moi. Mais c'était le rendez-vous festival.
Ma mère l'a regardé.
Hein. Moi, je les connais toutes par cœur. Hein.
Ah bon?
Ah merde. Ah, mais Zodiac et Dolmen, c'était ma vie à l'époque. C'était vraiment ma vie. J'étais.
Ouais, j'étais fan. Il y a même eu une saison 2 de Zodiac.
C'était la grande mère. Grande époque d'Ingrid Chauvin.
Ouais.
Mmh,
ouais.
Et Claire Kame.
Oui,
Claire Kame pour Zodiac, ouais.
Et justement, moi je me souviens, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps pour une prochaine vidéo que je vais faire, je fais un peu de pub, mais j'ai vu Aventure Caraïbe et Cœur Caraïbe, c'était la suite de Classe Mannequin.
Oh.
Voilà, okay. Tout le monde
t'es tout seul. Voilà, d'accord.
Il y a Vanessa Demouy toute nue dedans, donc c'est pas mal.
Ah, d'accord. Voilà.
Oui, bah Ingrid Chauvin aussi a montré ses seins, excusez-moi.
Sur TF1 à 21h?
Ah oui, je suis sûr. Que...
Ouais. Ah ouais, ouais bah, dis donc. C'était la belle époque.
Ah, mais elle donnait, hein.
Un peu plus proche de nous, il y a eu quand même les séries événements Bendos Brothers et The Pacific. Alors je me souviens que moi Bendos Brothers, je regardais ça sur France 2 et j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait quand même pas mal de budget quand même.
Non mais c'était dingue Bendos Brothers pour le coup. Enfin en plus t'as eu des grands noms déjà de l'époque et enfin non mais c'était beau quoi.
Par contre j'ai pas vu The Pacific. Alors, je sais pas ce que ça.
Bah
vaut.
C'était moins bien.
Et là, ils vont faire la prochaine, là, je sais plus ce que c'est. C'est sur le... C'est Stéphane, toi qui sais tout.
Eh bien, tu me prends de court.
Ah bon, t'as manqué, c'est
Je crois que c'est sur l'armée de fer.
Ah
ouais.
Il y avait aussi Generation Kill dans le même genre.
Ouais, c'est sur vrai. Guerre du Golfe. Ouais, ouais. Et sinon, bah, juste avant, il y a eu quand même V, qui était une mini-série, qui est devenue une série. Est-ce que ça valait le coup d'en faire une série? Pour beaucoup, non. Parce que
Ah bon?
Bah oui, il y a beaucoup qui disent que la version série est beaucoup moins bien. Oh bon, attends, l'enfant stellaire et tout, c'était des idées de merde. Oh,
Elisabeth.
Non, mais là, on parle déjà de la nouvelle série, non? Non, mais l'ancienne, c'était juste une mini-série?
Non, non, ils avaient une mini-série et ils avaient fait une série.
Enfin, il y avait saison. Deux mini-séries et une saison d'une 19 épisodes qui a été annulée.
Bah oui. Mais c'était pas terrible, enfin, là, c'était beaucoup moins bien.
Oui, ben oui, clairement, mais malgré tout, c'était un bel ajout à l'univers, quoi.
Ouais, d'ailleurs, ça devait revenir.
Oui, ils en parlent tout le temps. Ils parlent des séries à rebooter.
Ils ont fait l'autre merde de V 2000, je sais plus combien, 2009, hein là. Quelle horreur, mais bon, enfin bon.
Dinotopia, qui veut nous en parler un petit peu?
Mais j'ai toujours cru que c'était des téléfilms et pas une mini-série, ça, pour le coup. Moi, je me rappelle qu'il y avait, c'était en deux parties sur M6. Je dois encore avoir les cassettes VHS quelque part. Hein.
Une mini-série, c'est à partir de deux, malheureusement. Enfin, malheureusement. Dans la définition. Voilà. Ah, il est revenu, c'est deux parties, tu vois. Donc,
Ah ouais, mais bon. Ok, oui, si on dit ça comme ça, je suppose. Hein, mais ça me fait bizarre de dire que c'est une mini-série alors qu'il n'y a que deux épisodes, quoi.
Et les Britanniques, ils sont un peu experts de ça aussi, de dire, de faire un téléfilm en deux parties et de dire que c'est une mini-série.
Ouais.
Bah, mais Dinotopia, c'était trop bien. Voilà, ah, revenons au sujet.
Les Dinotopia, c'était trop bien.
Numéro. Oh mon dieu, c'est numéro combien? J'ai oublié. Oh mon dieu, help, help.
De quoi, de quoi?
Le petit dinosaure, c'était numéro combien? Numéro 9? Non.
Qui comprend?
Vous savez, le frère, là, le frère qui est beau, donc pas.
Pas
Prison Break.
Mais personne n'a vu Dinotopia. Qui...
Mais quoi? Personne n'a vu Dinotopia, mais c'était trop
si.
Bien.
On l'a tous vu, mais on s'en souvient pas, c'est pas la même chose.
Ouais, putain, je crois vraiment que je me rappelle encore de tout ce qui se passe. Genre, là, leur avion, il s'écrase, les deux frères arrivent, ils rencontrent Manon, là, et ils montent sur un dinosaure. Et ensuite, ils vont dans la ville des dinosaures, et là, ils se séparent, il y en a un qui reste dans la ville, et l'autre qui va en ferme, là, en ferme de dinosaures, voilà, alors qu'il aime pas les enfants, et bah, il y a un petit dinosaure. Et c'est numéro 9, je crois, mais je suis pas sûre. Voilà.
D'accord, très bien. Bravo, bravo.
Voilà.
Il a très bien vendu.
Non, mais c'est trop mignon. Ça, c'est et puis, tu voles sur des pyrodactyles. Mais quand t'es fan de dinosaures, c'est trop bien, Dinotopia. Hein. Voilà.
Et c'est avec le mec de Prison Break, je viens de voir.
Ouais.
Wentworth Miller.
Ouais, c'est avec Wentworth Miller.
Et il y a David Thewlis aussi.
C'est vrai.
Exact, Lupin. Méchant. Ouais. C'est vrai.
Et après la série, donc Wentworth est parti et c'était Eric Van Detten. Il n'y a que moi qui m'en souviens de. Qui se souvient
si,
de
mais lui. Ça compte pas. Enfin, je suis désolé, mais celui-là, c'est pas canon pour moi. Voilà.
Ah bah oui. Bon, alors, maintenant, chacun a pris à sélectionner une mini-série dont il veut parler. Alors, évidemment, maintenant, c'est large. Mini-série, ça peut être aussi les séries un peu événements, les event séries entre guillemets. Pouf pouf, Thomas, parle-nous de The Act, s'il te plaît.
Alors pour le moment c'est une mini-série, mais si ça se trouve, de base c'est censé être une anthologie, donc pour le moment toujours pas de saison 2 annoncée, mais on va dire que pour le moment ça reste une mini-série, donc ça rentre dans le thème. Donc The Act, c'est une série d'Hulu qui va bientôt avoir un an. Ouais, bah 20 mars 2019, ouais, je vois. Ouais. Qui est pour moi l'une des meilleures séries de 2019 d'ailleurs, qui raconte l'histoire vraie, malheureusement, de Didi Blanchard et de sa fille Gypsy, qui est en fait une histoire totalement atroce, puisque la mère, Didi, est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire que, en fait, elle a tellement besoin d'attention, elle se sent tellement seule également dans sa vie, qu'elle rend exprès sa fille malade pour qu'elle obtienne de l'attention de la part des autres, et que sa fille reste toujours avec elle en fait pour le restant de sa vie, plus ou moins. Nous suivons donc sur 8 épisodes de 50 minutes, 1 heure, à peu près 5 ans, ça commence en 2009, ouais, ça s'arrête en 2015, donc la vie de ces deux femmes qui va prendre vraiment un tournant très tragique, puisque je vais pas trop spoiler, mais même si on le sait dès les toutes premières minutes du premier épisode, et puis si vous connaissez l'affaire, vous savez peut-être comment ça s'est terminé, mais ça va se terminer par un événement dramatique, le meurtre d'une des deux. C'est encore une fois, faut le rappeler, c'est une histoire vraie et c'est terriblement glaçant. J'ai jamais vu une série qui m'a autant pris par les tripes. Je ne pouvais pas détacher le regard, sincèrement, de cette série pendant 8 épisodes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a des scènes horribles quand tu vois ce que cette mère est capable de faire à sa propre fille, uniquement par amour, mais aussi par égoïsme. C'est ça qui est très dur dans cette série, c'est qu'elle aime profondément sa fille, mais elle aime trop, et du coup, elle lui fait faire des choses totalement horribles. Et puis, petit à petit, la fille va commencer à vouloir avoir sa propre liberté. Elle commence à grandir, donc elle veut un petit peu bousculer les codes que lui a imposé sa mère, et ça va se transformer en une relation extrêmement toxique et qui se termine donc par un acte totalement horrible. Et voilà, c'est une excellente, excellente mini-série, bien qu'horrible. Il faut quand même être accroché. Si vous êtes un peu trop sensible, peut-être que ça ne va peut-être pas être pour vous. Notamment dans l'épisode 2, il y a une scène assez horrible dans l'épisode 2. Donc voilà. Je vous la conseille. Si vous n'êtes pas dans un bon mood, ne la regardez pas, mais regardez-la quand même un moment ou un autre, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà.
Qui est d'accord? Personne. Bravo.
Je pense sincèrement que je vais la regarder, quoi. Ça a l'air vraiment sympa.
Les critiques sont vraiment bonnes, j'entends, mais effectivement, de voir le sujet, ça me déprime d'avance, en fait.
Ah, bah alors, bah moi, le problème, c'est qu'elle est passée, elle est passée après Sharp Objects, qui parlait exactement du même sujet. Et en fait, ça m'a pas donné envie. Ah, bah, c'est la même chose. Hein, c'est, enfin, je veux pas. Bon, c'est trop tard maintenant, mais voilà quoi.
J'aime beaucoup plus thriller que mais, ça. Quoi.
Oui, mais la thématique.
Je sais pas, vu que j'ai pas vu des actes.
Moi, pour être tout à fait.
Mais pourquoi c'était censé être une anthologie, du coup? Enfin...
Parce qu'en fait, les créateurs, ils voulaient en fait à chaque saison raconter une histoire donc inspirée de faits réels et qui en fait a pour un peu caractéristique que ce soit des histoires très choquantes qui aient vraiment marqué l'histoire, notamment celle-ci. Ils voulaient donc faire ça pareil donc, pour chaque saison, mais pour le moment, bah, ça va faire donc un an et Hulu n'a toujours pas annoncé une saison 2. Mm-hmm. D'un côté... Je suis content parce que je me dis au moins Ziac ne sera pas touché, ça restera toujours cette mini-série que j'ai beaucoup aimée. Si jamais ils font une saison 2 que j'aime pas, ça peut toujours être un peu décevant. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir aussi ce qu'ils pourraient proposer d'autre parce que sincèrement, ils ont fait du très très bon boulot. Et encore une fois, la réalisation, elle est angoissante et terrifiante au possible. Enfin, en plus, quand tu regardes ça à 3h du mat, ça t'aide bien en plus dans l'ambiance. Donc voilà, sincèrement... Vraiment, regardez-la, je trouve que c'est un petit bijou et il y a eu de très bonnes critiques, mais c'est vrai qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre en ce moment, et je pense que vous en avez, regardez The Act.
Maxime ?
Moi, j'ai vu The Act, je crois que j'ai vu les 4 premiers épisodes. Autant je vois l'importance du sujet, surtout que... Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé dans les séries auparavant, mais je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. J'ai eu du mal avec. Enfin, on voit le postiche pour mince, comment elle s'appelle ?
Patricia
Arquette. Et je sais pas, ça, à chaque fois, ça m'a sorti totalement de la série et j'ai vraiment eu du mal, donc je me suis arrêté. Mais après, avec ce que tu dis, ça me donne un peu envie de la revoir pour aller jusqu'au bout, pour voir le dénouement de tout ça, mais. En 4 épisodes, j'ai trouvé que ça avançait pas du tout. Et que...
Alors, c'est vrai que c'est une critique qui a souvent été faite, c'est comme quoi les épisodes sont trop longs, il se passe pas grand-chose. Mais justement, c'est vrai que pendant des fois 20-25 minutes, on va avoir une scène qui va se passer dans un centre commercial, par exemple. Et je trouve que justement, c'est ce qui permet de créer la tension, de créer ce sentiment de malaise. Et mon Dieu, ils y arrivent terriblement bien, mais après, je peux comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Par contre, c'est vrai que j'ai pas parlé vraiment du casting, sauf que Patricia Arquette et Joey King. Alors, Joey King, si ce nom vous dit rien, elle a joué dans The Kissing Booth sur Netflix, que j'avais vu avant et que j'avais trouvé vraiment mauvais, et en plus avec un jeu d'acteur... d'une série Disney Channel, de voir Joey King dans cette série-là, je me dis, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous nous faites? Mais elle est incroyable, sincèrement, j'étais dégoûté qu'elle n'ait gagné aucun prix. Je crois qu'elle a gagné aucun prix. Patricia Arquette, oui. Alors, Patricia Arquette est très bonne aussi, mais Joey King, elle est incroyable, sincèrement. En plus, si jamais vous vous intéressez à cette histoire-là, il y a des making-of qui ont été faits sur la série et qui la comparent à la véritable histoire avec les véritables... personne dans la vraie vie. Et on voit comment Joey King s'est vraiment conditionné pour recopier la voix, recopier les mimiques de la véritable Gypsy qui est extrêmement malade. Donc voilà, regardez des vidéos, regardez des photos pour voir un petit peu à quoi ressemble le personnage. Il y a un très très gros travail de jeu d'acteur à ce niveau-là. Et sincèrement, je pense que Joey King méritait amplement sa récompense. Bien plus que Patricia Arquette, je trouve.
D'ailleurs, je me demande si dans The Politician de Ryan Murphy...
C'est ça, c'est le même sujet.
Ouais, oui, moi, ça va complètement penser.
On est d'accord.
Ouais, je pense, oui.
Très bien, et bah passons à toute autre chose. Stéphane, est-ce que tu veux nous parler de Taken, aka Disparition en français?
C'est ça. donc, c'est une série des débuts des années 2000. C'était à la belle époque. C'est tout ce qu'a fait... c'est tout ce dont je rêvais. Steven Spielberg qui fait une série et qui parle d'aliens. Donc voilà, là j'étais au paradis. Et en fait, ça suit le crash de Roswell. Et à partir de là, ça va suivre le destin de plusieurs familles. Donc ceux qui sont dans l'armée pour pouvoir faire le complot, ceux qui se mélangent avec les aliens et ceux qui ont été enlevés par les aliens. Et on suit le destin de ces trois familles et de les descendants sur 50 années, plus ou moins. Ouais. Et donc, c'est 10 fois 1h30 et ça a été...
Ah oui, 10 fois 1h30.
Ouais, et ça a été juste magique. Voilà, c'est tout ce dont je rêvais qui s'est matérialisé devant mes yeux et j'en ai pris plein les mirettes. Et alors, ça a un petit peu vieilli, je vous l'accorde aujourd'hui. Le rythme est quand même assez lent, mais c'est dingue quoi. Le casting est exceptionnel. Ouais, et puis,
on dit ça, mais t'en fais, tu fais 20 épisodes de 45 minutes, tu mets ça sur HBO, on crie au génie.
Eh ben, c'était sur Sci-Fi, on a crié au génie, et voilà.
Ah mais oui, c'était avec le team des 4400, et c'était un rôle un peu similaire,
oui,
non?
Oui, et c'est Joel Gretsch qui était, oui. C'était lui qui voulait cacher Roswell quand ça s'est passé dans le premier épisode. Ouais. Et donc c'est là où on sait qu'on a découvert Dakota Fanning.
Oui.
Voilà.
C'est vrai, il y a Julie Benz dedans, tiens donc.
Ah oui.
Bah je vois, il y a Anton Yelchin.
Ah non, mais je te dis, le casting, il est vraiment pas dégueulasse. Hein.
Desmond Harrington, lui qu'on voit plus.
Ah ouais, Eric Close, que t'as pas mentionné.
C'est
mais
vrai, Eric Close. C'est pour ça que je voulais regarder, parce qu'il y avait Eric Close, qui fait plus rien, lui, d'ailleurs.
Si, il réalise.
Ah non, il est pas dans une franchise, je sais pas quoi, là.
Non, je crois qu'il est dans un...
Les experts, mais pas les experts.
Non, il était dans FBI Porté Disparu, c'est fini depuis 10
mais
ans.
Mais voilà, c'est ça.
Mais là, je crois qu'il est dans un soap, maintenant, mais je suis pas sûr. Et donc,
ah
c'est...
ouais, ah, la déchéance.
Je crois que c'est introuvable. Si c'est sorti en DVD, peut-être.
Si, je crois si que c'est sorti, un beau coffret.
C'est sorti en DVD et c'est régulièrement diffusé sur le câble français.
Ah ouais, ah
ouais. Oui, ça repasse. Bon, il faut le trouver, mais non, ça repasse. Et c'est piratable facilement, sans vouloir le dire, parce que comme c'est diffusé régulièrement, il y a des versions en français, pas en français. Non, ça se trouve.
Très bien. Donc c'est de 2002, hein, ça date un peu. Mais...
Ouais.
Maxime,
oui.
Je crois que tu veux nous parler de Mildred Pierce et de Lost Room. Alors tu choisis celle que tu veux.
Mildred Pierce.
Allez.
C'est ma préférée. Mildred Pierce, c'est l'histoire de... En fait, c'est une adaptation au départ d'un bouquin de... je vais retrouver son nom. James Cain, qui a été aussi un film dans les années 40 ou 50. Et là, c'est Todd Haynes qui l'adapte dans les années 2010. Todd Haynes, c'est celui qui a fait Safe, Carol ou dernièrement Dark Waters. Et il a un peu l'habitude de ce portrait de femme au foyer qui va réussir à s'émanciper par le travail et par... Enfin, qui a un propos assez féministe. Et donc là, avec Mildred Pierce, on est dans les années 20 ou 30, et elle est incarnée par Kate Winslet. Ça a été diffusé sur HBO, et ça raconte l'histoire de comment cette femme qui va être quittée par son mari du jour au lendemain va devoir gérer sa carrière. Elle cuisine beaucoup, cuisine des gâteaux, mais elle a une fille qui est assez récalcitrante pour être gentil avec elle. Ça, en fait, sa fille va devenir une vraie connasse.
oui.
Et sa fille est jouée par Evan Rachel Wood.
Quand elle est adulte, du coup, oui.
Oui, quand elle est adulte, elle est jouée par Evan Rachel Wood. Et c'est une série en 5 épisodes qui font à peu près tous une heure, il me semble.
Oui.
Et c'est juste démentiel la manière dont il prend cette femme et on va la voir à travers une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la voir évoluer, mais en même temps la voir tomber tout le temps. Elle se prend tout le temps les dents au sol avec sa fille. Enfin, c'est... Parfois, il y a des scènes super dures. Moi, je me souviens d'une scène qui m'avait particulièrement choqué où en fait, elle retrouve son nouvel amant, son nouveau mari. Ils sont mariés à l'époque. avec sa fille. Et sa fille qui est absolument pas désolée. Au contraire, elle est super heureuse d'avoir chopé le mari de sa mère. Enfin, cette série est super dure, mais en même temps, Kate Winslet a livré une performance de dingue. Je ne sais même pas si elle a gagné un prix pour ça.
Il me semble que si, elle avait remporté meilleure actrice, du coup, en limited series cette année-là.
Emmy Award, ouais.
Ouais.
Guy Pierce aussi
avait gagné.
Si, il y a eu Golden Globe, Emmy Award. Guy Pierce aussi a gagné un Emmy Award. Et ils ont gagné meilleur casting, un autre truc aussi.
Oui,
meilleure mini-série dans un autre truc aussi.
Oui, parce qu'il faut dire aussi que la série, je l'ai trouvée magnifique. Il fait des plans, c'est tout simple. Il filme un peu la
vie.
Middle class américaine au départ, puis après elle devient un peu riche. Donc on voit un peu des belles demeures en Californie, il me semble. Mais la série est vraiment super belle et très intéressante sur comment une femme, comment elle vit son... féminisme, on peut dire, sa prise de conscience féministe, tout en étant confrontée à la vie, en fait, où elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut, parce qu'elle est mère, parce qu'elle est aussi mariée, et parce qu'elle est dans un business où, en fait, les hommes tiennent l'argent. Mmh. Et, enfin, non, vraiment, pour moi, je pense que c'est ma mini-série préférée. Je pourrais la revoir au moins tous les ans sans souci. D'ailleurs, je le fais. Donc, non, voilà, Mildred Pierce, c'est vraiment à regarder.
C'est sorti en DVD ou...
Oui, mais Dieu merci. Bah, quand même.
Ça a été diffusé en 2011. Par France 3 en France, en 2013, mmh. Sachez-le. Aki, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je vais juste rajouter. En fait, le bouquin, c'est un peu le type... Si on pouvait transposer Émile Zola en Amérique, donc de style Steinbeck, etc., ça serait un peu dans ce style-là. Donc on voit vraiment la difficulté de la vie, c'est hyper naturaliste. Enfin, vous imaginez qu'il ne se passe pas grand-chose, du coup, mais comme le disait... pardon, Alexis, j'ai un petit doute.
Maxime.
C'était Maxime, merde.
Non, putain, mais à chaque fois, c'est fou, quand même.
On voit ce qui est hyper similaire, je suis désolée.
Voilà, c'est ça de ne pas être venu à la centième. Voilà.
Voilà. Bref, donc comme disait Maxime, enfin, je suis complètement d'accord, c'est assez hardcore dans un sens de voir tout ce qu'ils subissent, etc. Mais il faut, enfin, moi je trouve qu'il ne se passe pas grand chose quand même, malgré tout ce que tu dis. Hein, c'est très prenant, etc. Mais je pense que certaines personnes peuvent ne pas aimer car c'est relativement contemplatif.
Et pourtant. Enfin, contemplatif, oui, dans le sens où on prend des tranches de vie et on reste vraiment sur... à chaque fois, c'est 2 ou 3 semaines par épisode,
ouais.
Quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, l'intrigue avance quand même. On voit vraiment une évolution dans le personnage, dans tous les personnages, et notamment à travers son entreprise qu'elle commence à monter dans le premier épisode...
Oui, car le temps passe, mine de rien. Donc, Dieu merci. Mais après, je dis ça, mais j'ai adoré aussi, hein, bien entendu.
C'est surtout grâce aux ellipses, en fait. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'ellipses dans la mini-série, et je pense que c'est ce qui lui donne un peu de dynamisme.
Mmh. Oui, non, ça, je suis d'accord. Bref, oui, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, rien d'intéressant. Enfin, merci. Et désolé, Maxime. Désolé, Alexis.
Pour changer, parle-nous aussi de Lost Room, tiens. C'est vrai qu'on s'est passé un peu inaperçu. Enfin, moi, pour moi, à l'époque, j'ai vu juste parce que c'était...
Bah oui,
ouais, mais juste parce que c'était en DVD pas cher, mais sinon...
c'était sur Sci-Fi Channel, il me semble, à l'époque, qui est maintenant Sci-Fi. Et c'est en 3 épisodes ?
Ouais.
6.
6 ?
Non.
J'allais dire, on a plus que 3
épisodes,
plus que 3.
3 épisodes de 90 ou 6 de 45.
Voilà, donc suivant le découpage. Selon la police, 3 épisodes et selon les organisateurs, 6 épisodes. Et The Lost Room, c'est assez étrange. C'est l'histoire d'un père de famille qui est détective et qui est incarné par Peter Krause, qu'on a pu voir dans Parenthood ou dans Six Feet Under. Qui perd sa fille le jour où il rentre dans une chambre d'hôtel. Il sort de cette chambre d'hôtel et une fois qu'il rentre, sa fille a disparu. Ouais. Et en fait, il se rend compte que cette chambre d'hôtel, elle est magique, fantastique en tout cas, et qu'elle permet de se transporter d'endroit en endroit, d'époque en époque, et qu'elle a...
Tu m'étonnes qu'elle soit fantastique, elle lui permet de rencontrer Juliana Margulies. Donc au bout d'un moment, voilà quoi.
Et justement, en fait, il rencontre Juliana Margulies pendant sa quête pour retrouver sa fille. Et il y a des petits twists où, en fait, il y a plein d'objets faits à partir de cette chambre qui ont des particularités un peu étranges. Je ne me souviens plus de leur pouvoir particulier, mais il y a un peigne. Je ne sais plus quel est le pouvoir du peigne, mais... Enfin voilà, il y a un peigne, une clé, des choses comme ça. Et à chaque fois, il donne un pouvoir à la personne qui l'a. Et cette mini-série, en fait, le but de la mini-série, c'est pour le père de famille de retrouver sa fille qui a disparu. Et il découvre toute une mythologie autour de la chambre. Et la série, elle s'est terminée du coup au bout de ces 6 épisodes. Elle a une conclusion ouverte, mais on a quand même une conclusion à l'intrigue principale, le fait qu'il retrouve sa fille. Donc, elle peut se regarder comme ça, même si on aurait bien aimé en voir un peu plus.
Ah oui, clairement, oui.
Alors, le peigne arrête le temps quand on se peigne avec.
Pendant quelques secondes. Voilà, c'est des choses comme
bah
ça.
Bah oui, le J.
Il y a un bracelet, une montre, il y a un ticket de bus, il y a le nim à ongles. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que. Mais, donc, chaque objet, c'est aussi le centre de l'intrigue de l'épisode. Donc, c'est un peu aussi oui. L'enquête de la semaine aussi, ou pas?
Oui, il y a un peu de ce. En fait, il y a un fil rouge, un gros fil rouge, mais chaque épisode se concentre sur un objet qui va lui permettre de dénouer un peu son fil rouge et qu'il va y avoir un espèce de cas de la semaine, mais. Qu'on ne peut pas vraiment dissocier. On ne peut pas regarder un épisode tout seul, ce n'est pas possible.
Ouais, d'accord. Ouais, donc
en même temps, il n'y avait que 6 épisodes. Hein.
Ouais. Oui, voilà.
On aurait pu en faire beaucoup plus, quoi, c'est clair.
Je pense que si ça avait été en série, ça aurait pu vite tourner au 4 de la semaine avec, l'épisode, avec un épisode, un objet.
Ouais. Donc c'est 2006.
Et ça n'a pas vieilli.
Il y a Elle Fanning. Tiens.
Qui joue la fille.
Quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Putain.
Eh ouais.
Il nous reste Alexis, Years and Years.
Ouais.
Quitte à être original, hein, autant faire Years and Years.
Pourquoi? Pourquoi c'est pas original?
Non.
Non, mais l'écoute pas, il a pas aimé, c'est pour ça.
Je vais pas regarder.
Ah.
Bah, c'est pour ça.
Bah, voilà, tu peux pas ne pas dire que t'as pas aimé si t'as pas regardé.
Bah, alors donne-moi envie.
Years and Years, grosso modo, en fait, tu suis une famille, donc les Lions, leur évolution, en fait, dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, d'année après année, donc d'où le nom de la série. Et en gros, bah, ça commence en 2019 et après, ça va jusqu'en 2030. Et en fait, tu as 6 épisodes et chaque épisode, tu fais un bond de 5 ans, je crois, dans le temps. Et en gros, en fait, tu peux voir comment notre société évolue du point de vue politique, écologique, économique, du point de vue... Enfin, ça parle aussi de l'immigration, ça parle de plein de thèmes ultra importants. Et tu vois que... Enfin, c'est une dystopie, clairement, et tu vois qu'on fonce droit dans le mur. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que tu vois comment notre monde évolue du point de vue d'une famille ultra soudée et comment, en fait, justement, une famille peut évoluer dans un monde complètement horrible. Et c'est pareil, en fait, c'est pas une série que tu regardes si t'es triste ou quoi. Enfin, il faut vraiment avoir le cœur accroché parce que t'as des scènes ultra fortes, ultra choquantes aussi. Là, il n'y a pas meilleur contexte qu'actuel pour regarder cette série, je trouve. Et franchement, elle est vraiment très très bien, très intéressante. Et il y a Emma Thompson, elle est juste géniale dans cette série aussi. Et même en la re-regardant, j'ai remarqué aussi que la BO, les musiques sont excellentes. À chaque épisode, ils essaient de voir quelles informations on pourrait avoir dans les prochaines années. Et t'as une...
Non, mais c'est pas possible. Attendez, il y a qu'avec moi que ça coupe ou ça
non, non, non. C'est du suspense, il fait des mini cliffhangers dans ses phrases.
Alexis!
Putain, c'est un bug? C'est un bug?
Oui!
C'est pas Alexis, c'est Maxime à qui?
Arrête! Certaines phrases, il y avait un blanc en plein milieu en fait.
Comme là.
Alexis, tu nous entends?
Ouais, bah, je sais plus ce que j'ai. Enfin bref, je te parlais de la BO qui est vraiment très cool. Genre.
D'accord. Bon,
ça bug encore?
Attends, ouais, en vrai c'est chaud. Non, là c'est bon, tu parlais de la BO, vas-y.
Ouais, je disais, grosso modo, la BO, elle est ultra.
Qu'est-ce qui se passe, bordel?
Bon,
cesse.
C'est parti, la BO.
Mais est-ce que ça marche?
Vas-y.
Ça marche.
Il y a un temps de latence.
Enfin bref, j'essaie de le parler, vous me dites si ça coupe, hein, s'il vous plaît.
Vas-y.
Alors, en gros, je disais, la BO, elle est ultra cool parce qu'elle est à être entrée, par exemple, t'as la musique qui passe quand il y a les chaînes d'infos qui... Enfin, c'est toujours la même. Enfin, ça te prend vraiment au tri. Donc, voilà. Enfin, en gros, c'est juste ça pour la BO.
Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de dystopie vu ce qui se passe en ce moment?
Non, c'était la vérité.
Ouais, mais franchement, c'est
chaud. C'est pour ça que je dis, franchement, c'est la... Si tu veux regarder une série pendant tu regardes ça, quoi. Enfin, parce que...
Non,
bah, pour déprimer et te suicider après, oui.
C'est déjà assez anxiogène comme ça.
Je sais que mardi, j'ai filé mon disque dur à un pote en pensant qu'il allait me le rendre. Il m'a envoyé un message mardi soir en me disant qu'il allait regarder Years and Years. Je lui ai dit, t'es sûr que c'est vraiment le bon moment?
Ouais, franchement, j'ai chaud. Hein.
Et Years and Years était numéro 1 de notre top Serial Causer en
L'année dernière.
2019.
C'est vrai?
L'année dernière,
bah
oui.
Oui.
Avec une
ah.
note de 19,5 sur 20. Donc oui.
Mais oui, c'est vrai, exact, exact.
C'est normal, il y a Russell Tovey dedans.
C'est ça. Ouais. Et Emma Thompson.
Tu vas s'appeler Years After Years ou un truc comme ça, enfin, ce que j'ai vu passer. Pas, je sais pas de quoi ça va parler ou quoi.
Waouh.
Ça m'étonnerait que Russell T. Davis ouais, se lance ouais. dans un truc pareil. Hein.
Mais non, mais je pense que c'est une web série en fait qu'ils vont faire, je crois.
Ah.
Ah, oui, pour parler un peu de la technologie, comment, enfin le côté post, enfin.
Ce qu'il avait fait avec Tofu.
Bien. Ah. Bon.
Hein?
Plus personne s'entend.
Oui.
Tu vas sur l'insta de Russell Tovey et il avait mis un post justement sur ça en fait.
Ah oui. Ah. Aki, tu nous as trouvé une mini série ou
ouais, j'ai trouvé, figure-toi. Oh, j'irai. Enfin bref, j'y pensais là. C'est Mildred Pierce qui m'a fait déclic. Alors, rien à voir, hein, mais bon, c'est Unbelievable, du ah coup, oui. Donc récente, là, de bah, l'année dernière, maintenant, vu que c'était 2019, sur Netflix. Donc, vous l'avez. Pardon?
Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
Vous l'avez toute vue ou pas?
Oui.
Oui.
Non.
Oui.
Non.
Oui, oui.
Bon, après. Oui, donc l'histoire. Je vais essayer de faire un effort.
Pas de spoiler, ouais.
Non, pas de spoiler. Okay. En fait, l'histoire, c'est inspiré d'un article du New York Times, je pense, qui avait remporté le Pulitzer à l'époque. Et c'est l'histoire de... Ça suit une gamine qui porte plainte le lendemain de son viol, ou du moins, visiblement, elle pense s'être fait violer, mais les policiers ne la croient pas. Donc, pendant toute la série, on va avoir ce... côté est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle dit la vérité. Et en parallèle, on a d'autres histoires. Donc il y a des détectives, enfin des enquêtrices qui vont mener une enquête sur une série d'agressions sexuelles qui se déroule de quelques années plus tard de l'histoire principale. Et donc on a deux timelines dans cette série. Putain, je raconte encore de la merde, je sais pas résumer une série, je sais pas comment c'est possible.
Ouais, c'était plus ou moins, ça se tient pour l'instant.
C'est vrai. Et donc c'est hyper actuel dans le sens où avec bien entendu MeToo, etc., etc., et les histoires de on ne croit jamais les victimes, mais on prend toujours la défense des abuseurs. Donc effectivement, il faut imaginer que ça se veut être une histoire vraie parce que ce sont des cas en fait des faits qui se sont véritablement déroulés, mais bon, bien entendu, c'est encore fictionalisé, hein. Donc ça, c'est assez redondant dans le sens où ça se passe très lentement. L'enquête, elle est hyper lente. Donc elle rencontre des obstacles et elles n'arrivent pas forcément à les régler. Donc il y a pas mal d'administratifs aussi. Voilà, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs. Donc il y a des allées et venues et ça n'avance pas. Mais au final, tu te rends compte que les mentalités, même en 3-4 ans, donc le viol premier se déroule en je ne sais plus quelle année, mais les autres se déroulent quelques années plus tard. Et on se rend compte qu'il y a quand même un changement de mentalité en 3-4 ans. Et non, c'était très intéressant, c'était très réaliste aussi. Et bah, pareil, casting incroyable avec une gamine... je devrais peut-être pas dire gamine, je sais pas quel âge elle a.
Caitlin Dever.
Ouais, Caitlin Dever qu'on a vu dans Booksmart, notamment.
Elle a 23 ans.
Elle a 23 ans, oui, donc la gamine. Et elle est très, très, j'ai envie de dire, believable, justement. Pardon, c'était nul. ouais, donc elle est top. Et les... créateur de la série, enfin l'une des créateurs, c'est notamment la scénariste Derin Brockovich. Donc tout le côté enquête et travail d'investigation, et c'est vraiment bien écrit sur ce point-là. Voilà.
Eh ben.
C'était. Voilà, j'ai donné envie à personne. Voilà. Mais c'est très. Et ben si, à Toni Collette et Merritt Weaver quand même. Quand même. Qui forment un duo, le duo d'enquêtrices, pardon. Qui fonctionne plutôt bien. Donc, évidemment, il y en a une qui est un petit peu désabusée et l'autre qui est encore assez idéaliste et qui s'accroche à résoudre ses affaires.
Bravo à qui.
Merci.
Ouais, bah, moi, je vais vous parler de. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est The 60s.
Welcome to the 60s. Non, pas du tout.
Ça date de 99. Il y a même une suite qui s'appelle The 70s. En français, ça s'appelle American 60. Et donc, ça raconte l'histoire d'une famille dans les années 60, avec tous les clichés qu'on attend d'une histoire qui se passe dans les années 60. Donc, évidemment, le Vietnam, la libération sexuelle, le racisme qui monte, Kennedy et tout ça. Et la musique des années 60, évidemment. Il y a du casting assez sympa. Il y a Jerry O'Connell, Jordana Brewster, Julia Stiles, Jeremy Sisto. Donc, c'est plutôt très sympa.
Ah, oui, évidemment. Bien, ouais.
C'est 2 fois 1h30. Donc la partie 60s est beaucoup plus connue que le téléfilm des années 70 qui a beaucoup moins de gens connus et qui est beaucoup moins parlant au niveau de ce qui se passe dedans. Et en fait, c'est quasi introuvable. Les DVD, par exemple, s'arrachent à $100 minimum. C'est passé souvent sur M6. Mais donc là, ça passe plus trop, parce que bon, évidemment, c'était très gentillé, enfin, c'était très cliché. Mais moi, j'aimais bien, parce que c'était tellement cliché que ça donnait vraiment une image très arrêtée de l'année 60, avec une bonne BO et puis des acteurs qu'on avait l'habitude de voir à l'époque un peu partout. Et non, je trouvais ça vraiment très sympa. C'était une sorte de chronique familiale avec bah évidemment le fils part à la guerre, la fille est libérée sexuellement, enfin évidemment la famille est à tous les problèmes du monde quoi. Et non, c'était très très sympa. Donc la suite est un peu moins bien parce qu'elle était moins inspirée aussi. Donc ça s'appelle
c'est-à-dire que c'est une suite avec les mêmes acteurs ou
non,
c'est
non, c'était totalement une autre chronique familiale avec d'autres acteurs. Il y a Amy Smart dans la version 70. En Jean un peu connu entre guillemets. Sinon il y avait qui, il y a Brad Rowe, alors lui c'est un second rôle des années 2000 qui a été dans plein de séries qu'on voit plus trop, mais si vous tapez Brad Rowe sur internet vous verrez sa tête. Donc c'est The 60s et
j'ai jamais entendu parler, c'est fou.
C'était
ça.
Une série événement à l'époque sur NBC je crois. Et ça avait plutôt bien marché.
Pardon, l'affiche. J'ai googlé du coup.
Et l'affiche, donc ouais, c'est Julia Stiles avec une couronne de fleurs, avec maquillage, avec le drapeau américain, avec le signe peace et tout. Donc voilà, c'est un truc très clicheton quoi. Et non, moi j'avais beaucoup aimé parce que j'avais vu quand j'étais jeune et depuis bah ça repasse plus, donc je pourrais pas dire si j'aimerais autant. Mais voilà, c'est American 60s. Introuvable en DVD. C'est pas sorti en France, hein, mais voilà. Et voilà. Je crois que voilà. Je sais pas si est-ce qu'il y a des mini-séries dont on n'a pas parlé. Oui, Racine, le remake. Maxime, Stéphane, ça vaut quoi?
Comme je connaissais pas la série originale, je pourrais pas comparer. Mais le remake, c'était. Moi, j'ai été déçu comparé à la réputation de la série originelle. Ça m'a laissé sur ma faim. Voilà. Les acteurs n'étaient pas forcément top non plus. Mais bon,
c'est vrai que ça fait moins l'événement que le tout premier. Quoi.
Ah, clairement, oui.
Je suis assez d'accord. J'ai regardé pour, parce qu'on m'avait parlé de la série originelle et qu'on m'avait dit que c'était vraiment un truc de dingue, que ça avait fait des audiences mirobolantes et que l'adaptation allait être vraiment très bien. J'ai regardé pour le cast parce qu'il y a des acteurs que j'aime beaucoup dedans. Mais en soi, c'est en 4 épisodes, 6 épisodes.
Moi, je m'en souviens même plus.
Et je suis incapable de me souvenir d'une seule intrigue. Enfin, c'est vraiment pas. C'est ni pédagogique, ni passionnant. Donc, non, c'est pas quelque chose que je recommanderais.
Très bien. Ben, merci Stéphane.
Avec plaisir.
Merci Alexis.
Ben, avec plaisir, même si ça a coupé.
Mais c'est pas grave. Merci à qui, hein? Quand même.
Merci à toi. Est-ce que je peux juste dire un truc?
Non.
Merci. Ok, bye.
Vas-y.
Voilà. Avant de commencer le podcast, Tom a mentionné Dr. Horrible et effectivement, c'est trop bien. Donc, allez le regarder. Voilà.
Mais c'était plus passé... une web série, non?
Ouais, c'était une web série. Ouais, c'est pour ça que c'était pas vraiment une mini série. Et franchement, je trouve qu'avec ce confinement-là, ce serait le moment idéal pour que Joss Whedon écrive la suite de Dr. Horrible. Donc, il devrait... je lui dis, fais ça, s'il te plaît, Joss. Merci beaucoup.
Parce que tu crois que sans confinement, il était occupé?
Ben oui, je pense.
The Nevers.
Hein?
On attend toujours la série sur HBO.
Ah bon?
Oui.
D'accord.
Voilà, merci.
Merci Thomas.
Bien, merci à toi.
Merci Stéphane, j'ai dit merci Stéphane.
Oui, mais tu peux me le redire, avec, c'est avec plaisir encore une fois.
Merci Maxime, j'ai pas dit.
Merci.
Et merci à vous.
Merci Tom. Merci. Merci
à toi.
Et on se retrouve la prochaine fois pour parler évidemment série. À bientôt.
Bye.
Salut.
Salut.
Salut.